Chapitre 24.3 Se vouer à Tao. À propos des explications précédentes, il est peut-être important d'attirer votre attention sur cette affirmation expresse de l'enseignement universel. Tant que le moi, ou l'égoïsme en tant qu'état de conscience, ne s'est pas complètement dissous dans ce qu'on appelle l'âme, le nouvel état de vie n'est pas réalisé et ne le sera pas. Pourtant, personne ne doit partir de l'idée qu'il faut commencer par anéantir le moi. Car tant que l'instrument de conscience supérieure, l'âme, ne grandit pas encore en vous, vous avez toujours besoin de l'instrument de conscience inférieure pour la cohésion des véhicules de la personnalité en tant que triunité. Le moi, par son sacrifice, doit avant tout conduire la personnalité à travers la nuit jusqu'à l'aurore du jour où l'âme peut prendre la direction de la personnalité. Voyez-le donc clairement. Une tâche est impartie à l'homme-moi, à l'homme égocentrique. C'est pourquoi les écrits sacrés nous avertissent qu'au cours du pèlerinage du moi inférieur, du moi terrestre, le voyageur ne parvient jamais au but situé sur l'autre rive. Si vous compreniez cela, les problèmes qui vous occupent actuellement prendraient une tout autre tournure. L'homme né de la nature, l'homme égocentrique, a une tâche à remplir. Fondamentalement, il a un but à atteindre. Au sein de la manifestation universelle, en tant qu'égocentrique, il n'est ni méchant, ni pécheur, ni anormal. Dans sa situation et dans son champ de vie, sa conscience et sa nature doivent servir à libérer l'autre en lui, l'homme-âme. Il ne devient pécheur, anormal, méchant, que s'il ne remplit pas la tâche qui est à la base même de son être. L'image familière du double personnage de Jean-Jésus illustre ce propos. Jean, l'homme qui accomplit la tâche de la reddition de soi, Jésus, l'homme-âme, libéré et baptisé par Jean. Jésus dit de Jean qu'il est le plus grand des nés de la terre. En effet, c'est lui, Jean, qui donne la possibilité de se manifester à l'homme-âme, l'homme véritable. Vous comprenez sans doute l'importance extrême non seulement de voir nettement vos limites et vos possibilités terrestres d'homme né de la nature, mais en même temps de découvrir votre mission et de la placer au centre de votre vie. C'est la raison pour laquelle nous vous parlons sans cesse du nouveau comportement, du comportement de qui veut accomplir l'unique mission à lui confiée par Dieu. Si telle est votre volonté, si vous suivez ce chemin, alors seulement le Christ se manifestera en vous. Saisissez donc la signification de cette parole, que vous connaissez peut-être très bien, la parole selon laquelle le Christ, l'âme avec laquelle l'esprit septuple est en liaison, prend tous vos péchés sur lui. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige, dit Ésaïe. Si en qualité d'appelé, vous parcourez le chemin de l'Andoura, le chemin de la reddition de soi, et que l'âme en vous devient vraiment vivante, alors cette âme vivante attirera et élèvera dans le nouveau champ de vie votre microcosme et tout ce qu'il recèle, conférant à cette entité complète les caractéristiques du nouvel état de vie. Le Fils divin se manifestera donc en vous comme le Sauveur, le Rédempteur sublime, et il prendra tous les péchés sur lui. Comment parcourir ce chemin? On vous l'a montré et expliqué déjà bien des fois, de même que la méthode à suivre pour accomplir ce pèlerinage. Celle-ci consiste à se consacrer à Tao. Il faut faire volte-face sur le chemin de votre vie, comme Christian Rosecroix la veille de Pâques. Lors d'un tel revirement, vous êtes tenu d'abandonner et de rejeter consciemment votre personnalité, donc votre égoïsme, de renoncer en toute lucidité à servir uniquement votre propre personne, attitude qui engendre tous les péchés et toutes les souffrances. Ensuite, de servir Tao, d'obéir à Tao, qui est l'amour impersonnel. L'homme actuel, né de la nature, est un être dont la personnalité est très cristallisée. Sa nature, sa conscience et ses organes sont entièrement accordés à la sphère vitale où il séjourne, mais où son âme ne saurait demeurer. L'âme a tout au plus la possibilité de l'appeler et de le stimuler afin qu'il cherche le royaume de l'âme et s'en approche. Mais le royaume du prince, l'âme n'est pas de ce monde. Si l'homme écoute cet appel, obéit à cet appel, alors, dans l'état de conscience particulier qui lui est propre, il commence le travail. Il rend droit les chemins jusqu'à la limite inéluctable, jusqu'aux rives du Jourdain. Et là, c'est l'autre qui reprend la tâche et qui le conduit sur des voies qu'il ne pourrait suivre en tant que personnalité. L'autre en lui fait progresser son entité entière de magnificence en magnificence. De cette félicité suprême, l'homme de la plus haute antiquité a toujours eu conscience. Mais il est tombé prisonnier de l'oubli. Les mystères, néanmoins, ont de tout temps conservé la science sublime de la libération. De même que celui qui plonge au plus profond de la mer a besoin d'un équipement spécial, de même, l'homme qui a sombré jusqu'au nadir de la matérialité possède un état de conscience spécial. S'il veut s'échapper du nadir, il faut qu'il abandonne l'état de vie du nadir, qu'il y renonce, après quoi, une conscience absolument nouvelle prend la place de l'ancienne, la conscience de l'âme vivante. Celui qui perdra sa vie pour moi, la trouvera, c'est-à-dire trouvera Tao. Si vous considérez tout ceci simplement comme une question de moralité, comme un nouvel aspect de l'armure morale que vous possédez déjà, alors le nadir, la limite, vous retiendra. Cependant, si vous adoptez un comportement totalement opposé à votre égoïsme, ce comportement signera votre propre anéantissement, certes, mais en même temps, votre libération totale.